franceinter.fr.
Léa Salamé, votre invitée ce matin, la directrice de l'ENA.
Bonjour Nathalie Loiseau.
Bonjour.
Il faut arrêter de dire que le peuple a toujours raison. C'est ce qu'a déclaré à votre place, à ce micro-là, il y a deux jours, Dany Cohen-Bendit. Il faut arrêter de dire que le peuple a toujours raison. Vous en pensez quoi?
Alors c'est gonflé, il n'y avait que Cohen-Bendit qui pouvait dire une chose pareille. Vous imaginez si la directrice de l'ENA sort ça, on s'évanouit.
C'est atroce.
Mais il y a quand même... Moi qui ai fait des sciences politiques, comme vous, on s'est longtemps méfié de ce qu'on appelait les plébiscites. On n'a pas toujours considéré que quand on interrogeait sur une question au travers d'un référendum, c'était à ça que le peuple répondait.
Et pourtant, vous savez qu'il y a une passion référendum en ce moment en France. Je veux dire, quasiment tous les candidats à la présidentielle disent qu'ils soumettront leur projet à référendum.
Je ne sais pas s'ils le disent autant depuis 15 jours. Dominique Seux nous disait que ça faisait 15 jours que le Brexit avait eu lieu. Je crois que c'est quelque chose qui montre les résultats de ce référendum-là, l'énorme confusion dans laquelle on est. On a beaucoup dit le peuple contre les élites. Qui représentait le peuple? Boris Johnson, Eton, Oxford? Qui est le
Eton, Oxford, ce sont les écoles les plus cotées et les plus réservées à l'élite en Angleterre.
Et les plus chères.
Et les plus chères également, ouais.
Qui est censé représenter le ras-le-bol des élites aux États-Unis? Donald Trump, un milliardaire. On est dans une période de confusion absolument monumentale.
L'ENA, l'École nationale d'administration que vous dirigez, est considérée comme le temple de la formation de ces élites. L'ENA est décriée, critiquée. Tous les quelques temps, il y a un dirigeant politique comme François Bayrou en 2007 qui dit « il faut supprimer l'ENA ». Comment est-ce que vous vivez ça, d'être pointé du doigt en permanence, que ce qui est représenté le Graal absolu il y a 50 ans, aujourd'hui est conspué?
Alors, ce n'était pas le Graal absolu. Dès sa création, en 1945, on a dit « il faut supprimer l'ENA ». Et qui l'a dit?
Qui l'a dit?
Les progressistes? Non.
Qui?
Ceux qui voulaient en rester à la France d'avant. L'ENA s'était vu, notamment par les grands corps, comme l'arrivée du tiers-État dans une aristocratie qui pouvait se coopter. Il y avait dans la haute fonction publique de la Troisième République beaucoup de népotisme, beaucoup de cooptation,
oui,
beaucoup
de réseaux partisans. Là, pardonnez-moi, on en est loin du tiers-État qui arrive dans l'administration, puisque 70% des étudiants de l'ENA ont des parents qui sont au moins CSP++.
Non, ils ne sont pas CSP++. Ils sont comme tous ceux qui font des études longues à l'université, dans n'importe quelle grande école. Et c'est un vrai problème, c'est-à-dire qu'ils ont un bagage culturel. Ce sont des héritiers culturels. Les enfants des patrons du CAC 40, ils ne sont pas chez moi. Ils sont à Londres, ils sont à Montréal, ils sont aux États-Unis. Ils ne sont pas à l'ENA.
Donc vous avez l'impression qu'il n'y a pas de reproduction des élites?
C'est ce que moi, j'ai des enfants de profs. Alors si, des élites culturelles, et ça me pose un vrai sujet, mais le sujet, on l'a regardé
comment
de
on
près.
Comment on lutte contre ce sujet-là, la reproduction des élites culturelles?
La statistique que vous avez citée, en la grossissant un petit peu, mais c'est pas grave, vous l'avez parce que tous les ans, on s'impose, nous, de faire des statistiques sur nos élèves et même sur les candidats au concours. Parce que les statistiques, ça ne ment pas, ça ne pardonne pas. Et ça nous oblige à nous demander ce qui se passe et comment on fait.
Et justement, comment on fait? Parce que Sciences Po a introduit il y a 15 ans les ZEP, les élèves issus des lycées en quartier défavorisé. Ils ont facilité leur accès à l'école. Qu'est-ce que l'ENA fait pour...
Alors nous, on a une classe prépa dite intégrée avec des étudiants qui ont du talent et qui sont boursiers. Boursiers taux 3, 4, 5, 6, c'est-à-dire les boursiers vraiment des milieux les plus défavorisés. Et on les prépare au concours pendant un ou deux ans à l'école dans nos locaux parisiens. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a des locaux parisiens. On leur donne un logement, un ordinateur, des super profs, du coaching. On les emmène dans les institutions, on les emmène dans les lieux de culture. Si on peut les emmener un jour à Radio France, on sera heureux de le faire. Pour faire en sorte qu'ils soient totalement prêts pour les concours les plus exigeants de la fonction publique, 76% réussissent un de ces concours.
Frédéric Mion, le directeur de Sciences Po, à votre place il y a quelques mois, avait dit « il faut revendiquer le terme d'élite, c'est pas un gros mot ».
Bah,
vous diriez la même chose?
Absolument. De toute façon, je suis souvent d'accord avec Frédéric Mion. L'élite, ça vient de quel mot? C'est élection. C'est les gens qu'on choisit pour leur donner plus de responsabilités que les autres. On parle beaucoup de foot aujourd'hui. Patrick Cohen est à Marseille. On parle de Didier Deschamps. C'est le sélectionneur de l'équipe de France. On lui demande de sélectionner et de former les meilleurs. Je l'ai déjà dit parce que je l'ai rencontré. On fait le même métier, Didier Deschamps et moi.
De sélectionner, de choisir les meilleurs. Combien il y a de femmes à l'ENA aujourd'hui dans la promotion actuelle?
Alors, dans la promotion actuelle, 36%, on est monté à 45% dans la promotion juste avant. C'est-à-dire qu'on s'approche d'un chiffre. C'est pas un chiffre magique, c'est pas un objectif en soi. Tous les ans, la moitié des élèves doivent être des femmes. Mais ce qui, moi, me préoccupait beaucoup, vous l'avez dit, non seulement je suis une femme, mais je suis féministe, c'est que depuis 70 ans que cette école existe et qu'elle est mixte depuis sa création, on n'avait jamais dépassé 30%. Ça voulait dire qu'on faisait activement et inconsciemment de la discrimination positive en faveur des hommes.
Comment vous avez la preuve de ça, qu'on faisait de la discrimination positive en faveur des hommes? Pourquoi est-ce que les hommes n'étaient pas meilleurs que les femmes à ce moment-là?
Parce que c'est pas possible que tous les ans, en proportion, entre les candidats et les reçus, il y ait plus d'une catégorie que de l'autre.
Vous luttez, vous l'avez dit, vous êtes féministe, vous luttez depuis des années pour les femmes, pour qu'elles n'aient pas peur de tout vouloir. Carrière, famille, enfant, vous avez fait une grande carrière, vous êtes aujourd'hui directrice de l'ENA, vous avez 4 enfants. C'est pas la règle, vous n'êtes pas la règle. Aujourd'hui, encore, même dans ma génération, il y a un choix entre carrière ou famille.
Alors c'est un choix que les hommes n'ont pas été amenés à faire, hein, et donc il faut se demander pourquoi une moitié de la population n'a pas à faire ce choix et l'autre oui. Chacun fait ce qu'il veut, on n'est pas obligé d'avoir des enfants, on n'est pas obligé d'avoir de l'ambition, on n'est pas obligé de prendre des grosses responsabilités. Ce qu'il faut c'est pouvoir aller vers ce pourquoi on est doué, ce qu'on aime, sans que quelqu'un vous dise ne le fais pas, tu es une femme, ne le fais pas, fais attention, tu vas avoir des enfants.
Et pourtant, c'est encore le cas aujourd'hui. On ne donne pas une promotion à une femme parce qu'elle a des enfants, ou alors on lui donne pas le poste dont elle a rêvé parce qu'elle est enceinte. Ça existe toujours.
Alors c'est en train de changer, heureusement, mais pas assez vite. Il y a un certain nombre de choses qui ont changé. Parce qu'il y a eu de la volonté politique, il y a eu des lois, alors on a beaucoup râlé mais finalement...
Ça sert à quoi les lois?
Ça sert à faire que dans les conseils d'administration aujourd'hui, il y a 40% de femmes, la loi Copé-Zimmermann, on a dit que c'était pas possible et puis aujourd'hui on s'aperçoit non seulement qu'il y a des femmes dans les conseils d'administration, mais qu'à la différence des hommes, elles se forment avant de devenir administrateur. Donc elles font monter la moyenne, le niveau des conseils d'administration. Et dans la fonction publique c'est pareil.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi un travail à faire dans le logiciel des femmes, c'est-à-dire qu'elles ont peur, elles s'imposent un choix qui peut-être n'existe pas.
Alors d'abord, il faut le faire dans le logiciel des mères. Je le dis parce que je suis mère de 4 garçons et je rappelle tout le temps que tous les machos ont une maman. Tous les stéréotypes sont transmis d'abord dans la famille. On dit toujours, il faut qu'à l'école, les profs fassent. Alors les profs, ils devraient tout faire à la place de tout le monde. Déjà, en famille, se poser la question de savoir si on élève nos filles et nos garçons en leur donnant les mêmes possibles. J'ai beaucoup regardé ça autour de moi, j'ai beaucoup voyagé, j'ai vécu à l'étranger. Il y a un seul moment dans notre vie de parents où on fait la même chose avec les garçons et les filles, c'est quand on leur apprend à faire du vélo. On leur dit, n'aie pas peur, avance, ça va marcher, alors qu'on sait qu'ils vont tomber. Mmh. Et on leur dit, c'est pas grave, recommence, c'est formidable. Il faut faire ça tout le temps.
Ouais.
N'aie pas peur, tu vas échouer, mais c'est pas grave, recommence, c'est formidable, tu peux le faire.
Alors pour casser les stéréotypes, vous allez regarder le foot ce soir?
Alors, j'ai pas la télé. J'adore la radio.
Alors là, vous êtes en plein stéréotype. Patronne de l'ENA qui a pas la télé, c'est terrible. Merci à vous, Nathalie Loiseau. Très belle journée.
Merci.
Merci à vous, Léa Salamé.